c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, comme allora.
Bien le bonsoir à tous. Je m'ennuie bien et dans la place avec Madame Ginette, Monsieur Kogan, Monsieur Edmond. Et nous allons passer cette heure à venir ensemble avec plein de nouvelles réjouissantes de la planète et de l'humanité, bien sûr.
Comment vous le savez, Madame Henriette ?
Bonsoir.
Parce que j'ai échangé hors micro.
Ah bon, très bien, tout va bien. Vous vous rendez compte que c'est les deux dernières émissions que là nous préparons avant l'année prochaine ?
Oui.
Ça fait peur quand même, le temps passe trop vite. Tempus fugit !
Tout ça parce que vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël.
Chut, mais fallait pas le dire. Oui, mais là, vous verrez, j'ai une rubrique spéciale. Là, j'ai décidé, voilà, j'ai trouvé des trucs géniaux dans Le Monde qui me paraissait un journal sérieux jusqu'à maintenant. Bon, ben voilà. Mais j'ai fait plein de découvertes.
Tout ça
cette
parce
semaine.
Que vous voulez pas mettre 7000 euros dans une montre.
Bon, et le père Kogan, il est là ou pas?
Je suis là. Alors, malade, mais n'est-ce pas la saison?
Ah, ma foi.
A priori, oui, en effet, il y a une espèce de tendance.
Allez, juste quelques titres, puis après on donnera la parole à Madame Ginette. Miss Nord-Pas-de-Calais prédite grande gagnante par l'IA dans l'incompréhension après son absence du top 12. Bah oui, enfin
c'est pas l'IA qui a voté.
Oh, une peau de banane, je vais tomber, pardon. Alors, en événement open bar, je m'envoyais peut-être 5 à 7 verres entre soirée et cadeau, ces influenceurs qui deviennent alcooliques. Ils ont été influencés, peut-être, alors.
Ils sont sous l'influence de la boisson.
Non, mais ça pose un vrai, vrai, vrai problème d'arrêter que l'alcool soit en roue libre et à disposition partout. Enfin, c'était il y a fort, fort, fort longtemps, c'était 2005 ou 2006, par là. À l'Eurovision, c'est l'année où le groupe finlandais Lordi a gagné, donc Monster Rock, avec des prothèses en latex sur le visage, etc. Et pendant que les gens donnaient les points, donc eux, ils avaient des masques et des cagoules en latex, il faisait 400 degrés, il y a l'effervescence du spectacle, et ils ont commencé à demander des bouteilles d'eau, et il n'y avait que du champagne. Il a fallu qu'il y ait des gens de l'équipe de l'Eurovision aillent avec des petites pièces chercher des canettes d'un soda états-unien très connu, parce que sinon, ça, ils allaient dessécher, parce qu'ils ne buvaient pas d'alcool.
Alors, voilà, les seuls gagnants vaguement de loin métal de ce concours buvaient que de l'eau.
Oui, straight edge.
Et voilà pourquoi je ne ferai jamais l'Eurovision.
Et voilà, tout simplement.
Vous n'aurez pas cette chance. Allez, un titre, vous savez, de temps en temps, on a ces petits titres parce que les gens ont des noms magiques. C'est comme ça, c'est le hasard, on dira. Olivier Vigneron, le nouveau chef d'orchestre des Champagnes Laurent Perrier. Bravo.
Tout va bien. Là, tout va bien dans cette phrase.
Le mec, sur son CV, il n'a même pas besoin de rajouter autre chose. Bon, allez, hein, Madame Ginette, que nous avez-vous concocté cette semaine ? Non, je m'en ai bien.
On a toujours le meilleur du monde.
Oui, mais moi, je sais pourquoi le monde va mal.
Commencer très très vite par un truc, oui. Mais qui est visuel, mais je vais vous le raconter quand même. Ça se passe à Carroll, dans le Maryland, aux États-Unis. Un livreur Amazon qui allait livrer, donc, hein, faire son boulot. Et quand il a commencé à vouloir traverser l'allée qui séparait le portail de la maison, il a été stoppé net et il n'a pas pu avancer. Qu'est-ce qui l'a empêché dans sa course ?
Alors, classiquement, c'est un chien.
Eh bien, cela, non.
Un crocodile.
Dans quel, vous avez dit dans quelle région ?
Dans le Maryland, aux États-Unis.
Un crocodile.
Non. C'est effectivement des animaux terrestres qui étaient... Enfin, il y en avait une petite vingtaine.
Ah, une petite vingtaine ? Oula, ouais, une petite vingtaine de crocodiles, ça fait trop.
C'est oui, ça, c'est pour ça.
Ça, on livre beaucoup moins bien, évidemment.
Des singes ?
Non, des poules. Les fans de Zelda apprécieront. Si vous avez déjà joué à Zelda, c'est une scène qui rappellera les plus tristes moments du jeu.
C'est un remake.
Le moment où on est défait par une horde de poules.
Chargé par des poules.
C'est un remake d'Hitchcock. Les oiseaux, mais cette fois, ce
Exactement.
sont des poules.
Mais il s'en passe des choses aux États-Unis. Croyez-moi, il s'en passe.
Un peu trop à mon goût.
Notamment. Ben oui, notamment, l'histoire se passe dans une brocante comme il y en a tellement, dans un magasin de seconde main, enfin l'équivalent là-bas de Emmaüs, s'appelle Goodwill, littéralement bonne volonté. Et donc cette personne partage un point commun avec moi qui est un amour immodéré du kitsch. Et elle achète donc une tirelire cochon avec écrit 1976 en dessous, un truc abject qu'elle paye 10 balles et ça la ravit et je la comprends, j'aurais été pareil. Et encore plus si, comme elle, en ouvrant cette tirelire, j'avais trouvé 2000 dollars.
Pas mal.
Voilà,
Et
voilà.
le vendeur
Alors,
avait rien vu.
elle est honnête, elle les a appelés pour dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réclamé sa tirelire parce que je la lui rends? Et en fait, non, ça faisait partie de choses qu'on leur avait blindées et données en vrac. Donc, bah, elle va
Eh oui.
passer un bon Noël.
Une maison qui avait été vidée un peu précipitamment.
Est-ce que vous
A
avez.
priori, ouais.
A priori, c'est qu'il n'en avait pas besoin.
Est-ce que vous avez
C'est
plus
ça.
d'infos sur cette dame? Parce que j'ai effectivement perdu une tirelire avec 2000 dollars dedans.
Fallait pas l'envoyer aux États-Unis.
Ah ben non, c'est une erreur.
Non, non, non. Je vous amène maintenant au Pays de Galles et le fait que ce soit au Pays de Galles est important car c'est de linguistique où, comme à beaucoup d'endroits, il y a un spectacle de fin d'année et donc les gamins doivent être déguisés qui en Père Noël, qui en reine, qui en fée, qui en je ne sais quoi encore. Et certains gamins, notamment des petits garçons, en elfes. Et vous savez ou pas, mais les elfes, ils ont des petits noms. C'est pas juste elfe 1, elfe 2, elfe 3. Il y a peut-être un Roger, un Barnabé, un je ne sais quoi. Et il y en a un qui s'appelle Elfis, Elfis. Et donc, le gamin est rentré chez lui en disant à ses parents qu'il devait être déguisé en Elfis. Sauf que nous sommes au Pays de Galles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris, les parents?
Oh, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en gallois?
Alors, il n'y a pas besoin de parler gallois, c'est juste à l'oreille quand on a l'habitude d'un accent gallois qui est un accent un peu rude sur les consonnes. Et ben, ce gamin a fait sa parade de Noël avec sa meilleure banane et son costume blanc à paillettes et sequins.
En Elvis?
Ah, mais oui!
C'est pas mal, c'est pas mal,
Alors,
j'aime
les gallois
beaucoup.
ayant de l'humour, ça n'a rien empêché et ça a beaucoup fait rire tout le monde. C'est le meilleur elf du spectacle.
Ah oui, d'accord.
Ça change!
Ouais, c'est vrai qu'Elvis, niveau elfe, c'était pas trop ça quand même.
Non, mais là, c'était trop mignon.
Bravo.
Un petit elfiste de 9 ans, oui, je dis oui.
Bravo.
Voilà, je vous amène maintenant en France, à Mulhouse, où un monsieur a été arrêté par la police municipale parce qu'il attaquait les décorations de la rue et qu'il en détruisait une partie. Et il ne détruisait que les boules rouges. Pourquoi?
Alors,
Ben parce qu'on est à Mulhouse.
Est-ce que ça pourrait commencer par ivre, virgule?
Non, 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 même pas.
Les boules rouges.
Pourquoi les boules
Mais il est
rouges?
anticommuniste, c'est tout.
Eh ben, même pas, c'est encore plus terre à terre que ça. C'est quelqu'un qui a une phobie, étayée par un médecin, hein, mais c'est médical, il a une phobie de la couleur rouge. La couleur rouge lui provoque des crises d'angoisse.
Ok.
La légende qui n'a jamais été vérifiée pour les taureaux. En fait, elle existe chez les
Elle
êtres
existe, mais
humains.
pour lui.
D'accord.
Résultat, il a été convoqué, il a promis que oui, il ferait attention quand il verrait des boules de Noël, il passerait droit son chemin et il ne le ferait plus. Et effectivement, il a laissé les boules de Noël tranquilles.
Oui, mais heureusement qu'il n'y avait pas le
Cependant,
Père Noël dans le coin.
bah, pas encore, mais effectivement.
Ben, il va le tabasser.
Cependant, il a été repris la main dans le sac parce qu'il a croisé des points sépia.
Alors, ils sont pas tous rouges. Par contre, ils
Eh
sont.
ben, apparemment, ceux-là, oui, et ils ont pris pour le groupe.
C'est quoi un
Alors,
poinsettia?
poinsettia, c'est ce qu'on appelle c'est une plante qu'on appelle
Ah.
l'étoile de Noël, et en fait, c'est la fleur qui est colorée. C'est la feuille qui est colorée et non pas la fleur.
Et c'est
C'est.
des feuilles, voilà, qu'on n'hésite pas à mettre partout pour Noël parce que ça survit pas, en fait.
Et je crois même que ça s'appelle des bractées, la partie colorée, mais
Oui, très certainement.
je
Alors,
suis
déjà, j'ai
pas
réussi à trouver un nom
complètement
de plante.
sûre.
Hein, c'est un espèce de haut fait. Laissez-moi cette victoire.
Alors, les poinsettias ne sont pas tous rouges, par contre, ils sont tous toxiques, car c'est une plante de la famille de l'euphorbe. Si vous avez des chats, si vous avez
Ah!
des chiens un peu débiles qui mangent n'importe quoi, éviter.
Oui.
Enfin, faut surtout que ce monsieur ne croise pas Laurence Ferrari, quoi, parce que. Bon, d'accord.
Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce propos ?
Parce que les Ferrari sont rouges, je pense que c'est ça. Hein,
oui,
dire.
Absolument, bravo. Ouais. Oh, merci, non, madame Mariette.
Oui, non, mais je le connais depuis des années.
Je ne regarde pas tellement beaucoup la télé, mais il me semble que cette dame est blonde.
Oui, mais je parle couramment, le monsieur Edmond.
Oui, mais je vous remercie pour ces sous-titrages utiles.
En effet.
Et je terminerai par un salon de jeux vidéo avec compétition de jeux vidéo en Russie. Les NNYS International Awards, donc une compétition de jeux vidéo classique.
Ça commence tellement mal.
Le jeu en question était Counter-Strike 2, qui est un jeu où vous avez des mitraillettes et vous tirez sur tout ce qui bouge. Enfin, c'est un jeu intellectuel. Hein.
Oui, mais avec bienveillance.
Et la personne qui a gagné, qui a mis tout le monde à l'amende, est une femme, ce qui est très très rare dans ce milieu.
Et elle avait seulement 5 grammes d'alcool.
C'est devenu vite. De quoi ?
Non, rien, allez-y, Mariette.
Mais c'est devenu viral parce qu'elle avait une petite robe blanche à pois bleus, c'était trop mimes, et surtout qu'elle a attiré les félicitations et l'admiration de tous les compétiteurs. Il n'y a pas eu de mauvais perdant, tout le monde l'a applaudi, parce qu'elle a 77 ans.
Ah, le niveau est assez bas en Russie quand même, hein, au niveau jeux vidéo, non?
Elle les a tous arrachés. En fait, elle a expliqué que au début du confinement, elle s'ennuyait, donc elle s'y est mise, elle y a pris goût, et dès qu'elle a un peu de temps libre, elle se met dessus.
Alors, il y a peut-être effectivement des...
Et toute manière, elle avait... Ah.
Mais qui t'en...
Qui vous appelle, madame Henriette? Qui veut participer à Je m'ennuie bien sans nous avertir?
Voilà. C'est autre chose.
Oh, on aurait pu avoir un auditeur en direct. Ouais. L'auditeur.
L'auditeur est une auditrice.
Qui venait me féliciter pour mes blagues.
Oui, très probablement. Oui, non, je pensais à cette dame un peu âgée russe. Il faut voir que si elle a 77 ans, elle a traversé pas mal une partie de l'histoire de ce pays, n'est-ce pas ? Qui peut-être fait qu'il ne faut pas trop l'emmerder non plus.
Non, mais de manière...
Ah bah, visiblement, oui. Je pense que c'est peut-être pour ça que les jeunes ont applaudi, ils ont eu peur.
Oui.
Ah bah, elle est venue avec sa Kalachnikov. Ah ouais.
Là, on respecte les personnes âgées.
Bizarrement.
Ah là 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 là. Merci, voilà, madame Ginette. Ah ouais, bah c'est effectivement assez copieux cette année. Je comprends que vivement la fin de 2025. Bon, en tout cas, moi, je suis tombé sur un article dans Le Monde et je sais pourquoi tout ceci part à volo. Pourquoi nous allons aussi mal ? La réponse est là. Les États-Unis, évidemment les États-Unis qui nous font beaucoup souffrir en ce moment, mais je sais pourquoi. Il y a des raisons à tout et là, c'est scientifique. Hein, sont devenus le premier pays consommateur de mini Babybel.
Ah ben, faut pas s'étonner.
20 000 tonnes par an.
500, vous vous rendez bien compte.
Non, mais est-ce qu'on peut imaginer ce que représente 20 000 tonnes de Babybel ?
De mini Babybel.
De mini Babybel.
C'est pas étonnant qu'ils nous détestent.
La suite va vous étonner.
Alors oui, ça, c'est très étonnant, puisque, en fait, ils sont devenus complètement accros au mini Babybel parce qu'ils considèrent que c'est un snacking sain. Puisqu'évidemment...
Alors, par rapport à ce qu'ils mangent, c'est vrai.
Ouais. Ben oui, c'est ça. Et en fait, comme ils sont tous sous traitement anti-obésité, eh ben, la marque Bell, donc cette fromagerie française qui a inventé le Baby Bell...
Un fleuron de la tradition fromagère française.
N'est-ce pas ? Eh bien, a réussi à vendre ça comme quoi c'était plein de protéines et pas si gras. Vous voyez ? C'est très fort.
C'est plein de protéines, alors de mauvaise qualité, mais et par rapport à ce que eux s'infligent quand ils parlent de fromage, on est vraiment sur une marge de progression. Alors après, on n'y est pas encore. Hein.
Madame Ginette, vous me faites tellement de mal.
Monsieur Edmond, il faut voir d'où on part. Il faut recontextualiser.
Faut recontextualiser. Sachez, monsieur Edmond, qu'au Maroc, ce qui est un phénomène au niveau fromage, comme dans tout le Maghreb, ce sont les vaches qui rient, mais parce que les vaches qui rient sont un des rares fromages ou assimilés à ne pas être à pouvoir se garder à température ambiante, même au Maroc. Et au Maroc, la marque qui commercialise les vaches qui rient a sorti une édition spéciale qui marche du feu de Dieu et feu est le mot choisi à la harissa.
Alors, figurez-vous, madame Ginette,
voilà, c'est trop ça, là, je vous laisse. Hein.
Est-ce que en Corée, on peut faire le même au kimchi?
Chiche!
Non, mais ces gens-là sont démoniaques, puisque le Kiri, c'est également la fromagerie belle. Hein. C'est la même maison. Hein.
Alors, c'est la vache Kiri, monsieur. Oui, le Kiri, je crois que ça se conserve au frigo. Enfin, j'en sais rien, j'en ai pas chez moi.
Mais la vache Kiri aussi, non?
Ah non, la vache Kiri, ça se
c'est indestructible. C'est indestructible.
Ah, d'accord. Ben, c'est indestructible parce que c'est pas du fromage.
Bon. Oui, déjà. Hein.
Bon, en tout. Bon, alors, donc, oui, c'est pas le même. Le Kiri, c'est pas le même. Bon, en tout cas, les Américains ont droit à un Babybel, à la mozzarella et même au. Alors, je sais pas comment
alors,
on dit.
Alors, c'est génial. Ils ont réussi à faire l'alliance de deux fromages qui n'ont pas de goût.
Non, mais c'est la saveur mozzarella. Hein. Il n'y a pas du tout de mozzarella dedans.
Oui, mais alors, saveur mozzarella, ça n'existe pas, monsieur Edmond.
Et la saveur.
Ça ressemble, la saveur mozzarella.
Ça n'a pas de sens.
Et la saveur Monterey Jack, qui est pareil à un fromage typiquement américain. Voilà. Donc, ils en font un Babybel. Bon, voilà. Donc,
au demeurant, le Monterey Jack, c'est un vrai fromage et c'est super bon. Il faut en trouver de qualité parce qu'en mettre en saupoudrer dans le Babybel, c'est non, en fait.
D'accord. Bon, en tout cas, du coup, ben, on leur exporte pour le coup. La balance commerciale est très bonne hein, puisqu'ils ont une usine aux USA, belle, mais bon, c'est que 11 000 tonnes par an. C'est dans le Dakota du Sud, c'est nul, quoi.
Ça suffit pas pour couvrir les besoins américains.
Ben oui, alors que l'usine d'Evron en Mayenne sort 29 000 tonnes par an de Babybel. Non, mais 29 000 tonnes. Non, mais qu'est-ce que. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre tout ce poids sur la planète?
Bon, alors, c'est, voilà, encore un sponsor perdu. Hein, avec
un fromage né en 1972, hein, vous vous rendez compte. Alors, évidemment, ils sont en train d'essayer d'enlever la couverture en cire qui a fait rêver tant d'enfants.
Oui, rassurez-moi, ils ne la mangent pas.
Non, mais là, ils vont la supprimer puisque la loi change, donc on n'aura plus le droit de mettre un truc non recyclable. Donc, ils sont en train d'essayer d'inventer un truc en papier. Voilà, voilà. Et donc, ils ont sorti une nouvelle version hyper protéinée, voilà, pour les Américains.
Ben,
je ne sais que dire.
C'est vrai ils doivent manquer de protéines, les Américains, en effet, vu leur alimentation.
Donc, je suis allé sur le guide d'achat du journal Le Monde, journal de référence. Évidemment, je suis allé à la rubrique soins et bien-être, parce que moi, je me bichonne.
Et on salue Madame Ginette.
Madame Ginette nous quitte. Eh ben, à bientôt.
Au revoir.
Oh là là, mais qui c'était? Il y avait VGE avec nous.
Au revoir.
Attention, l'accordéon arrive.
Et je me suis intéressé au meilleur réveil simulateur d'aube.
Bien, alors.
Alors, c'est assez rigolo parce que vous allez voir que c'est vraiment de la daube. Alors, ça imite évidemment le lever du soleil, ça fait monter de la lumière, enfin bon.
Ouais, enfin, ça imite le lever du soleil, on va se calmer, on n'a quand même pas des explosions solaires dans la chambre.
Non, non, non.
C'est une lumière croissante, voilà.
Je croyais que c'était la recette de cuisine, je ne comprenais pas trop.
Non, alors pas de cuisine, mais alors... Alors évidemment, Le Monde vous explique que les produits sont sélectionnés et testés de manière indépendante par des journalistes expérimentés. Par contre, le journal touche une rémunération si jamais vous commandez un des objets en passant par leur lien. Bon.
Oui, ben voilà. Ce que nous ne toucherons pas après votre rubrique sur le Babybel, et je le déplore.
Non, mais ni sur les réveils, mais si vous allez voir d'aube. Alors, comment ça fonctionne? Mal, puisque on nous dit donc. Alors évidemment, tout ça, évidemment, ce serait pour éviter les réveils violents dus à une sonnerie. Hein.
Oui,
il suffit de pas mettre de sonnerie, mettez une réveil douce.
Je veux pas être déplaisante, mais en fait, ça n'a pas de sens la plupart du temps.
C'est-à-dire, Madame Henriette, qu'est-ce qui n'a pas de sens? Oh là là, elle s'en étouffe tellement, elle est offusquée. C'est-à-dire, le réveil n'a pas de sens?
Non, vous mettez un simulateur d'aube, mettons à 6h30 d'hiver. Eh bien, que va-t-il se passer? Votre corps, vous lui dites, ça y est, c'est l'aube. Votre corps se réveille. Vous sortez pour aller au boulot. Ah ben, c'est plus l'aube. En quoi c'est intéressant pour votre réveil.
Mais vous êtes docteur? Vous êtes docteur en dormir?
Non, par contre, je déteste aller au travail quand il fait nuit et en revenir quand il fait nuit.
Alors, rapidement dans l'article, ce qui nous est dit, écoutez bien, je lis textuellement, pour ne pas faire d'erreur. Les réveils à aube, rien à voir avec les bateaux, hein, c'est vraiment simulateur de luminosité, qui vous font monter la luminosité. Les réveils à aube ne réussissent pas à réveiller tous leurs utilisateurs. Ah merde! Ça marche pas alors, c'est un peu bête. Donc pensez bien à le tester avant de devoir partir au boulot.
Si vous dormez avec un masque sur les yeux, ça fonctionne beaucoup moins bien.
Par contre, ils réussissent souvent à nous rapprocher de l'état d'éveil. Donc, vous n'êtes pas réveillé, mais bon, quand même, ça vous a rapproché de l'état d'éveil.
Vous n'êtes pas réveillé, mais pas loin. Il n'empêche que, du coup, vous arrivez au boulot avec une heure de retard, mais vous n'étiez pas loin d'être réveillé, ce qui va vraiment, comment dire, rassurer votre chef quand vous le lui indiquerez.
N'est-ce pas ? Et le docteur Sylvie Royan Parola, j'adore Parola, estime que le réveil simulateur, et ça va rejoindre ce que vous disiez, Madame
vous
Henriette.
Vous pas très bien placé pour vous moquer des noms de famille, si non, je puis me permettre.
Monsieur Edmond. Ah bon, alors, ça va rejoindre ce que vous disiez, Madame Henriette. Ça permet surtout de renforcer un rythme. Et écoutez bien, il fonctionnera plus certainement dans les tranches horaires dans lesquelles on est programmé pour se réveiller. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de vous réveiller à 6 heures, vous achetez un truc à 150 euros qui va vous aider à vous réveiller à 6 heures et vous allez vous réveiller à 6 heures. C'est fort.
Ah ouais, ça c'est pas mal, en effet.
Alors en plus, il faut voir quand même que ce réveil simulateur machin, pour que ça marche, il doit être à 30 à 40 cm du dormeur. Donc j'imagine que si vous êtes en couple, il faut chacun son réveil simulateur. Sinon, il n'y en a qu'un qui se réveille.
On le met entre les deux sur l'oreiller.
Au milieu du lit. Alors, heureusement, ces réveils font autre chose.
Ils font le café pour
par
achever
exemple,
de vous réveiller.
Vous pouvez brancher un smartphone dessus pour le recharger à l'USB. Hein, c'est quand même c'est super intéressant.
C'est vrai que depuis l'invention de la prise électrique, on n'avait pas fait mieux.
Et pour certains, ils sont équipés d'un simulateur de crépuscule pour mieux vous endormir.
C'est-à-dire que quand vous vous couchez, la nuit est tombée, on est toujours en hiver depuis vachement de temps quand même. Et là, vous dites à votre corps, hey, deuxième crépuscule, tu comprends quelque chose ? Non, vous n'êtes pas prêt de dormir. Hein.
Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de ça pour m'endormir le soir. Mais bon, écoutez, chacun ses travers, il faut demander aux insomniaques.
C'est complètement ridicule.
Si ça marche.
Vous avez un crépuscule actuellement à 5h30, 6h du soir. Est-ce que vous endormez ? Non. Sauf, évidemment, si vous lisez certains ouvrages. Bon.
Voilà. Alors, le monde nous en conseille un, évidemment, de façon très sérieuse et tout ça. Parce qu'en plus, vous pouvez mettre... il a un haut-parleur à l'arrière qui vous permet d'avoir une baffle, une enceinte. Mais on nous dit que, pour la voix, ça va. Par contre, quand on écoute de la musique, rapidement, ça devient pénible parce que c'est pas terrible. Donc,
en plus,
bon,
le son est
pas.
Dégueulasse à ce prix-là.
Mais à ce prix-là, par contre, écoutez bien, parce que c'est quand même super important. Tous ceux qui utilisent un réveil vont voir que s'ils avaient celui-là, ça changerait leur vie. Il est possible de programmer deux alarmes distinctes. Et c'est bien pratique si on a l'habitude de se lever à des heures différentes la semaine et le week-end. Parce que vous n'avez pas besoin de reprogrammer, vous voyez, quand vous êtes le week-end, ou de couper l'alarme. Parce que vous avez deux alarmes distinctes.
C'est bien.
Il y a quand même des mecs qui bossent. Pour votre confort.
En effet.
Et surtout, pour vous réveiller, parce que vu que la lumière n'a pas suffi, ça émet quand même du son. Il y a deux types de chants d'oiseaux. Bon, ils ne disent pas lesquels, par contre. Ça, je trouve que c'est un peu pour des mecs qui font un article sérieux, on ne sait même pas quel type de piaf vous réveille.
C'est ça. Si je préfère la mésange à la bergeronnette, je fais quoi ?
Là, vous êtes mal. Ou l'engoulevent, on ne sait pas. Vous pouvez vous faire réveiller par les vaches et leurs cloches. Le son du bol tibétain. Hein, monsieur Kogan, est-ce que vous êtes déjà fait réveiller par le son du bol tibétain ?
J'ai dû m'endormir en manipulant un, sans doute.
Le chant des grenouilles. Alors, moi, je croyais que c'était très pénible, ça, le chant des grenouilles, mais visiblement, il y en a qui veulent se réveiller au chant des grenouilles. Le bruit des vagues. Ça, c'est pour les Bretons, ça.
Ça dépend. Quelle mer ?
Ça endort, mais ça donne aussi envie d'aller aux toilettes. C'est compliqué.
Alors, si c'est pour vous réveiller, c'est pas gênant.
Si vous faites pipi au lit un peu quand même.
Il faut se réveiller rapidement.
Voilà.
Faut être un peu vif.
Le problème, le défaut trouvé sur cet engin miraculeux, c'est qu'il ne dispose pas de pile de secours. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne de courant ?
Vous avez vraiment creusé le sujet.
Vous n'avez pas votre hob, déjà.
Je ne comprends plus du tout de quoi on parle depuis au moins 3 minutes.
Et s'il y a une panne de courant, monsieur Kogan, en général, les radios réveillent.
Alors, si vous n'avez pas votre hob, là, ça y est, on est passé sur le registre religieux.
C'est ça.
Oh, voilà.
D'ailleurs, vous savez pourquoi...
Ça peut réveiller également. Est-ce que vous, déjà, par erreur, vous vous êtes réveillé avec une radio confessionnelle ? C'est très étonnant.
Le chant grégorien, à 6h du mat, ça, c'est pas sûr que ça vous réveille. D'ailleurs, vous savez pourquoi ils n'ont pas le permis de conduire, les curés ?
Oh là là, non, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Allez, c'était cette semaine, c'était la journée de la laïcité.
Vous la connaissez, Madame Ariette.
On s'arrête immédiatement.
Je la connais pas, je la connais
pas. Ah, Monsieur Kogan, bah, c'est parce qu'ils ont les habits sacerdotaux.
Merveilleux. Merveilleux.
Bien sûr. Alors, donc, s'il n'y a pas de pile, vous n'avez pas d'aube. Non, c'est débile. Alors... Je vous en ferai une autre après.
Si c'est, c'est la fin de
c'est
l'année.
Génial. Je n'avais pas du tout compris, je viens de la comprendre, c'est merveilleux.
Alors, donc normalement, Monsieur Kogan, vous avez une pile qui fait que la sonnerie vous réveille quand même, puisqu'elle va sur la pile. Là, il n'y a pas de pile, mais ils ont fait un espèce de système où plus rien ne marche dans l'appareil. Donc, vous n'avez pas l'aube, vous n'avez pas le son des cloches, vous n'avez pas le bol tibétain. Mais par contre, à l'heure du réveil qui était programmée, vous avez des bips répétitifs. C'est vraiment sympa comme réveil.
Ah ouais, là, pour le réveil en douceur, moyen.
Et là, conclusion de l'article, une fonction rassurante. Je suis pas sûr quand même. Allez, je finis ma chronique, je vais passer la main à Madame Ariette.
Ceci dit, vu l'air dubitatif de Monsieur Kogan, vous ne l'avez absolument pas convaincu.
C'est vrai. Pourtant, moi, je lui ferais bien tester.
J'ai même oublié de quoi en parler, en fait.
Est-ce que vous connaissez la blague du petit déjeuner, Monsieur Kogan ?
Non, mais...
Pas de bol.
Non, je la connais pas.
Pas de bol.
Voilà.
À vous maintenant,
Ariette. C'est lamentable.
Bon.
Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi je vous avais jamais demandé de blague depuis qu'on se connaît.
C'est n'importe quoi. Bon, alors...
Ah, je crois que Madame Ariette est bon public.
Ceci dit... Non.
C'est parce que je fais la mimique en même temps.
Ouais, c'est un...
J'aurais pu dire pas de bol tibétain.
C'est un rire de détresse en fait, parce que cette émission avait beaucoup d'ambition il y a quelques années quand elle s'est lancée, et je vois où on est arrivé.
Voilà. Mais relevez le niveau, Madame Ariette, avec votre rubrique.
Eh ben, ça va être difficile parce que je vais vous parler de pattes trop courtes, alors on va pas trop relever le niveau.
Vous voulez nous parler de machin Tanguy ?
Mais pas du tout. Bon. Mais ça suffit maintenant.
Bon, bravo.
Mais non, je veux vous parler de nos amis les bêtes. Bon, donc...
Ah bah oui, justement.
Voilà.
Ça suffit.
On est en pleine dent.
Ça suffit. Donc, vous avez peut-être vu, si vous suivez, si vous avez les mêmes algorithmes que moi sur les réseaux sociaux, cette information qui a pas mal circulé ces derniers jours, comme quoi l'Union européenne va interdire la reproduction et l'exposition des animaux de compagnie, donc chiens et chats, avec des caractéristiques, vous savez, des caractéristiques physiques qu'on considère comme extrêmes et qui mettent en danger leur santé. Le cas le plus connu, c'est celui des chiens à museau écrasé, par exemple les bulldogs.
Le cavalier Pinscher.
Exactement, que l'on a reproduit dans des conditions
peu glorieuses.
Peu glorieuses, en tout cas en termes de consanguinité, et qui sont des chiens, mais qui malheureusement sont affaiblis, voire malades toute leur vie, en tout cas qui n'ont pas la santé qu'ils pourraient avoir s'ils avaient une ascendance.
Un patrimoine génétique meilleur.
Voilà.
D'accord.
Donc, ça va être interdit.
En 2060.
Alors, on va en reparler. Et c'est quand même... On se demande comment ça a pris autant de temps, puisque, en fait, si on réfléchit deux secondes, allons-y, soyons fous. Les animaux de compagnie sont des animaux dont l'unique fonction, et c'est d'ailleurs, je crois, leur définition en
juridique.
Oui, en tout cas en droit animalier, leur unique fonction, c'est d'être aimé en fait. Et donc, c'est quand même intéressant de choisir pour les aimer des animaux que l'on rend malade volontairement et de façon complètement programmée. Ça, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans cette démarche intellectuelle.
C'est l'obsolescence programmée chez l'animal ?
Ou en tout cas, c'est être quasiment sûr d'avoir un animal qui ne jouit pas de la santé dont il pourrait profiter toute sa vie. D'ailleurs, une certaine proportion de ces chiens et chats avec des caractéristiques donc extrêmes ont des espérances de vie plus courtes. Ça va jusque-là. Alors, il y a eu donc une communication importante là-dessus parce que, évidemment, c'est...
Les éleveurs ne sont pas d'accord.
Ça, si, j'en sais rien. Non, ben non, forcément, forcément, ils sont pas d'accord. Mais enfin là, vous savez, la communication de la Commission européenne, bon, ça prend quand même assez peu le ressenti.
Oui,
des,
c'est un peu austère, c'est vrai.
En compte. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller voir le site de la Commission européenne qui parle de ces dispositions, parce qu'en fait, c'est une disposition parmi tant d'autres. Et donc, on apprend que donc pour la première fois, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe se sont mis d'accord pour adopter un ensemble de règles par rapport à l'élevage de ces animaux de compagnie, dont je vous rappelle que dont la seule fonction, je vous rappelle, est d'être aimé. Eh bien, nous apprenons que il va y avoir donc une réglementation qui va s'appliquer dans tous les pays européens. Et par exemple, les éleveurs canins seront obligés de leur prévoir un accès extérieur. Voilà, nous apprenons que les éleveurs ne pourront plus élever les chiens et les chats dans des containers.
Ah, vous avez fait des découvertes qui vous ont plu, là, j'ai l'impression, Madame Henriette.
Oui, je trouve que pour
vous dites, mais est-ce que j'ai bien lu le communiqué du 21e siècle ?
C'est ça, pour des animaux que l'on vend en montrant à quel point ils sont mignons, adorables, on a envie de les embrasser. Les pauvres...
Bon, un conteneur bien équipé, quand même.
Ils ont quand même des passés et des passifs un petit peu lourds.
Est-ce qu'ils ont le Wi-Fi dans le conteneur ?
Bien évidemment, tous les animaux qui rentreront dans l'Union européenne seront censés respecter les mêmes conditions d'élevage.
C'est-à-dire qu'ils feront de temps en temps, ils feront comme ils font pour tous les conteneurs là, qui arrivent en Europe, ils en regardent un sur je ne sais plus combien de... Oui, ok, très bien.
Mais après, on peut difficile... Enfin oui, bon, bref, ça peut être un argument de dire oui, mais comme les autres pays ne vont pas le respecter, nous, ce n'est pas la peine.
Ah, ce n'est pas ce que je dis, absolument pas, absolument pas.
Mais bon, pour. Voilà. Donc, les propriétaires, les futurs propriétaires d'animaux seront avertis de leurs responsabilités. Alors, c'est déjà le cas hein, en France pour l'adoption, depuis peu. De la même façon que c'est déjà le cas en France, dans le Code rural, vous avez un article qui interdit la reproduction des traits physiques qui compromettent la santé de l'animal, avec l'efficacité que nous constatons. Et il y aura donc des vérifications qui seront effectuées. Bon, là, on est dans la rhétorique classique d'un communiqué de la Commission européenne. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que on est en 2025, on s'en est préoccupé, hein, super bien. Alors, c'est la décision de principe. Cette réglementation devrait être officiellement adoptée, devrait être en fait rédigée et officialisée au courant 2026, ce qui est relativement rapide, et elle devrait s'appliquer 2 ans après, c'est-à-dire courant 2028, évidemment, sauf exception et dérogation qui seraient peut-être
oui,
accordées
ici. Oui, il y a peut-être des pays
là
qui vont mettre plus de temps, etc. Ok, ben, très bien. Merci, voilà. Madame Henriette.
Et dans le même temps, je vous annonce avec plaisir que le premier pays producteur d'animaux de fourrure d'élevage, c'est-à-dire la Pologne, vient de décider d'arrêter cette production à l'horizon 2033.
Et ça servait à quoi ?
Ben, à tuer des animaux pour récupérer leur fourrure.
Mais vous parlez plus de chiens, là ?
Non, non, non.
Ah, d'accord,
j'ai
ok.
J'ai dit d'animaux.
Ah oui, mais j'y étais pas. C'est pour ça que je me disais, mais pourquoi ils élèvent des chiens pour leur poil ? C'est bien bizarre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?
Alors, on élève un animal pour la fourrure qui s'appelle le chien viverrin, mais qui n'est pas un chien.
D'accord, oui, parce que c'est d'autres animaux pour la fourrure, en général.
Oui, c'était pas un chien, le chien viverrin.
Oui, alors,
mais...
on élève des renards, et notamment des renards, des renards blancs, hein, des renards arctiques. Alors, vous savez, on n'est quand même pas très loin du chien. En tout cas, sur le plan génétique.
Des visons.
Voilà, des visons, voilà. Donc, écoutez. Hein,
merci, Madame Henriette. Je pense que là, vous avez fait carton plein pour lancer Monsieur Kogan.
Oui, les amis des animaux.
Dans la joie et la bonne humeur.
Doivent être aux anges.
Voilà, bravo, parfait.
Hein, je vous ai mis la patate.
Allez, je vais en faire. Tout de suite, dans Je m'ennuie bien, Monsieur Kogan!
D'accord. Alors, n'en faites pas trop non plus. Bonjour.
Mais écoutez, voilà. ça fait tout.
Bonjour.
Double emploi.
Alors, commençons cette chronique culturelle par une bonne nouvelle. Eh oui, il y en a de temps en temps. Il y en a. Annoncé. Alors moi, je l'ai vu il y a quelques heures. Annoncé par une figure incontournable de la mouvance dark en France. J'ai nommé Emmanuel Hennequin.
Ah, on a vu la même nouvelle.
Voilà. Et oui, parce que vous voyez, donc du coup, vous voyez sûrement de quoi je veux parler.
Absolument pas.
Où je veux en venir. Eh bien oui, le retour d'Obscur. Alors, Obscur, c'était un magazine qu'on achetait en kiosque, voilà, et donc qui avait arrêté pour des raisons qu'on peut comprendre économiques. Hein. Et donc, Obscur va revenir en papier. Alors, donc, on en saura plus bientôt, visiblement. Hein. L'annonce n'était pas totalement exhaustive. Ce sera sans doute une série de livres thématiques. Et donc j'ai hâte d'en savoir plus parce que je suis comme d'autres un de ces fans en France de musique sombre. Donc voilà, musique goth, dark electro, new wave, dark folk, ce que vous voudrez. Et donc voilà, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et donc je trouve que c'était une bonne nouvelle. Quoique un peu sombre.
Oui, mais les musiques sombres, il n'y a pas de simulation d'aube. On peut vivre sans, a priori.
Vivre sans ?
La simulation d'aube.
Ah oui, non, c'était pas très clair, Madame Henriette.
Ah oui, c'est pas clair.
Enfin, moi, je suis un peu déçu quand même. Je pensais que vous alliez nous dire que Timothée Chalamet était le cinéma, mais bon, tant pis.
On peut toujours rêver.
Comme s'il l'avait commencé.
Parlons cinéma, du coup. Vous avez raison. Parlons cinéma. Avec un premier film que je conseille. Les deux films que je vais conseiller aujourd'hui sont quand même un peu particuliers et je pense que les deux films méritent vraiment qu'on s'y arrête. Le premier s'appelle Silver Star. Alors, c'est un film presque américain, je vais expliquer. Ça se passe là-bas. Symboliquement dans le milieu très patriotique et à la fois bon enfant des reconstitutions de la guerre de sécession. Vous voyez, ces grandes batailles où on voit les sudistes et les nordistes, et puis les camps, les tentes, les balles, etc. Et donc voilà. Mais en réalité, c'est surtout cette Amérique qui est quand même un peu au bord de la route, hein, voilà, qui est évoquée dans ce film. Une jeune femme noire sortie à peine de prison, on comprend plus tard en fait qu'elle a affronté le policier raciste qui effectuait un contrôle et qu'elle y a laissé un œil. Voilà. Et donc, ne sachant pas quoi faire pour aider sa famille qui est à cause de son incarcération entre autres dans une situation assez compliquée, elle trouve rien de mieux que de braquer une banque. Voilà. Et de prendre un otage, en l'occurrence une otage, qui se révèle particulièrement croquignolesque, débrouillarde, en apparence une bimbo complètement écervelée, enceinte jusqu'aux genoux, archétype sans doute de cette Amérique délaissée pour compte, immature mais très drôle. Alors évidemment, c'est plus subtil que ça n'en a l'air, à travers, entre autres, ce personnage-là. Le duo fait penser, bien entendu, à Thelma et Louise, mais aussi au duo de Why Night Is Falling, hein, ce chef-d'œuvre du film lesbien canadien, car évidemment, il y a quelque chose de fort entre ces deux personnages que tout oppose, mais en fait, tout est suggéré, tout est subtil. Donc c'est très beau. Certaines scènes sont incroyables, vraiment drôles, comme un évangélisateur qui essaie de convaincre la fille en question dans un motel. Or, la fille en question, avec son vernis à ongles, ses paillettes, etc., ne sait même pas ce qu'est la Bible. Et donc,
elle ne comprend pas qui est le type qui a pu écrire un truc pareil.
Oui, alors, l'évangéliste en question, ou l'évangélisateur, je ne sais pas, part de loin, du coup.
Oui, il part de très loin, et donc c'est assez drôle, surtout quand il lui annonce qu'il va lui donner l'ouvrage en question, alors que cet ouvrage vaut cher, donc tout de suite, elle le prend. Enfin, pas tout de suite, mais voilà, donc ça, c'est assez amusant. Alors, en fait, voilà, ce film comporte aussi donc des scènes très douces, en fait, et j'ai trouvé que c'était un beau film, plein d'espoir, voilà, dans le défaitisme ambiant. Derrière la caméra se trouve un duo, en réalité, pour revenir à mon premier propos, un duo français. Un duo français, Lola Bessis et Ruben Amar, qui avaient été repérés avec leur film dans lequel jouait Lola, Swim Little Fish Swim, en 2013. Et qui est aussi tout à fait intéressant, qui se passe aussi aux États-Unis. Et donc voilà. Donc c'est deux films pour un là dans cette chronique. Et donc tout cela est à voir.
Alors rappelez-nous le titre du film que vous avez chroniqué.
Je rappelle, et évidemment ça a du sens dans l'histoire puisque le père de la jeune braqueuse est un ancien militaire et que il va y avoir un petit truc avec les paillettes de la deuxième personnage.
Oui, parce que le titre, c'est une décoration militaire.
Et hein, oui, c'est une décoration, une des plus hautes décorations militaires, la Silver Star. Voilà, Silver Star. Le deuxième film dont je vais parler, alors, oreille sensible, peut-être aller boire un café. Voilà. Parce que le deuxième film dont je vais parler cette semaine est bouleversant. Alors, rien que d'y penser, là, je suis perturbé. Je l'ai vu il y a quelques heures. Dites-lui que je l'aime, du nom du livre de Clémentine Autain, paru en 2019, je crois, ou 2020, où elle parlait de sa mère, cette étoile filante du cinéma des années 70, dont un des films s'appelait comme cela, en 1977, un film de Claude Miller. Dominique Lafin. Le livre a bouleversé comme moi, et on le voit, alors c'est ça qui est amusant, parce qu'on voit ça à l'écran, Romane Boringer. Et donc Romane Boringer explique qu'elle a décidé d'adapter ce film.
Ce livre.
Le livre, qu'elle a décidé d'adapter le livre. Bon. Alors, vous allez me dire, c'est totalement impossible. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la première réflexion qu'ont les gens. C'est comment faire ? Et en fait, là où l'astuce de Romane Boringer, vraiment, qui est géniale, c'est d'avoir, et sans doute que c'est la raison pour laquelle Romane Boringer a été à ce point touché par le livre de Clémentine Autain, qu'elle ne connaissait pas bien avant d'avoir lu le livre. Et ça, c'est important. Romane croise cette histoire dramatique avec la sienne, que je ne connaissais pas. Donc, en fait, les mères de nos deux protagonistes, que toute la France connaît, tout le monde connaît Romane Boringer, tout le monde connaît Clémentine Autain. Eh bien, figurez-vous que leur mère, à quelques années près, aurait pu se connaître. Donc Dominique et Maggie, hein, elles avaient la trentaine toutes les deux, et leurs deux filles, 12 et 14 ans, quand elles sont mortes, toutes les deux, dans des circonstances difficiles, un peu étranges, sans doute liées à leurs excès dévorants, l'une l'alcool, l'autre la drogue. Réussir à parler de ça dans un film, c'est un vrai exploit, qu'on n'en finisse pas désespéré. Et c'est là où le film est puissant. Et le film n'est jamais voyeur, jamais vulgaire. Parfois, grâce au talent de la famille Boringer, parce qu'on voit d'autres, entre autres le fils, le film devient amusant, décalé. Donc, c'est une enquête aussi vers les origines, une quête de la réconciliation au-delà de la mort, une transmission apaisée. Et c'est tout ça, et tellement encore plus, parce que certains moments sont difficiles, bien entendu, hein, vous l'imaginez. Et bravo aux deux actrices qui jouent,
la mère, Dominique, et la fille, Clémentine, puisque là, il y a vraiment un moment de cinéma, et en particulier une scène qui est terrible, une scène de dans un hôtel dont parle Clémentine Autain dans le livre, et qui est la voir à l'écran m'a retourné. Donc on est entre le documentaire et la fiction, on s'y perd, mais en fait on s'y perd de bon cœur. Et la scène de fin où les gens se croisent, les mères et les filles, c'est très beau. Alors voilà, c'est un film émouvant, délicat, triste, poétique et parfois cruel, mais aussi très, très énergisant, très enthousiasmant. C'est la vie. Et c'est un beau film de femmes, par et pour les femmes, mais pas seulement. C'est magnifique parce que moi, je pense que le voir, alors c'est peut-être difficile sans un mouchoir en poche, mais voilà, je pense que j'espère que je vous l'ai bien vendu.
D'après ce que vous dites, il faut tout le paquet. Hein.
J'ai peut-être pas été très, très, très facile à suivre parce que je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir chroniquer ce film-là qui nous a bouleversés. On était quelques personnes dans la salle et la personne à côté avec moi, évidemment, autant que moi. Voilà. Et donc, je vais finir sur toute autre chose parce que c'est... Voilà, c'est
oui,
c'est...
ça fait longtemps que vous n'avez pas chroniqué un film d'action américain.
Voilà. Alors, voilà. Changeons de style. Alors, juste une petite info. Voilà. Rien à voir. Nous venons d'apprendre qu'une série Young Sherlock, ça y est, là, je viens de faire le gap, c'est bon ?
Oui, ouais, oui, c'est bon, va. C'est bon. Ah ben, écoutez, amis auditeurs, j'espère que vous faites du yoga et que vous êtes souple.
C'est ça. Et donc, voilà, une série Young Sherlock va sortir en 2026 sur Prime Video avec Guy Ritchie derrière la caméra. Et donc, l'acteur principal sera Hero Finastriffin. Pour ceux qui ne voient pas très bien qui c'est normal, parce que cet acteur, en fait, il est connu pour la série de films romance After.
Oula.
Ah oui, donc, autant vous dire ouais. que ouais. je suis très dubitatif.
Mmh. Voilà. Il n'y a, oui, oui. a pas un Elona Holmes qui sort aussi, non ?
Ah oui, mais ça, c'est moins pire quand même.
Ouais. Un troisième, il me semble, non ?
C'est moins pire. Il y a un débat là-dessus, je ne sais pas, on va voir. Enfin, en tout cas, l'actrice est devenue très compliquée depuis la cinquième saison de Stranger Things, si j'ai bien suivi la presse people. Alors, que vous dire d'autre ? Eh bien, que lundi 15 décembre, donc, eh bien, écoutez, 10 jours avant Noël, n'est-ce pas ? 6 jours avant le solstice d'hiver, mais que s'est-il passé le 15 décembre 1582 ?
Ouh là 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 là, ça remonte.
1582, en France ?
Oui.
Oh, ça risque d'être un peu moche quand même. Donc, c'est les Valois hein, qui sont au pouvoir, on est d'accord.
Oui.
Est-ce que c'est encore François 1er ?
Ah non, pas du tout.
Oh,
il est d'obédience décédé depuis fort longtemps.
Ah bon, c'est pas cette époque-là, je croyais.
Ah non.
Bah non, il. Voilà.
Alors, je vois pas comment il aurait pu faire 1515 Marignan.
Ah oui, c'est ça, 1515. Vous avez dit combien ? 82 ? Ah oui, ah oui, non, oui, il serait, oui, très, voilà, vieux.
Donc, est-ce qu'il y a un duc de Guise ? Est-ce qu'il y a un de Guise dans votre histoire ?
Non, il n'y a pas de Guise dans mon histoire. Ça concerne le pape et la France.
Ah, oh, c'est celui qui est mort d'une gifle ?
Mais non, c'est bien avant.
Il n'est pas mort d'une gifle et puis ça ne concerne pas sa mort.
Alors, ouais. Est-ce que c'était un pape français, tout simplement ?
Ça, j'en sais rien. Je ne me souviens pas, pardon, de ne pas avoir vérifié.
On a fourni quand même, enfin, la France a fourni pas mal de papes.
Oui, oui.
Bon, plus maintenant, mais on était un peu fournisseur officiel du Vatican.
Alors, si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave.
Non, non, mais on ne trouve pas. Hein.
Eh bien, rien. Alors, je m'explique. Parce
c'est
que
le pape
vois...
rien, il s'appelle le pape rien ?
Et non, pas du tout. Il ne s'est rien passé. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette semaine-là n'existe pas. C'est-à-dire que nous sommes passés directement du 9 au 20.
Ah oui, c'est pour rabibocher le calendrier.
C'est la mise en place du nouveau calendrier.
Le calendrier grégorien. Voilà, voilà. Alors.
Ah ouais, c'était subtil, hein, monsieur Kogan, quand même.
Comment ?
C'était subtil, hein, là, quand même.
C'était subtil.
Je préfère mes blagues.
Alors.
Est-ce que vous voulez qu'on organise une enquête là-dessus ?
Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à Beethoven, hein, n'est-ce pas ?
Ah ben oui, bon anniversaire, Ludwig. Ah ben, il ne nous entend pas, c'est bête.
Le calembour très mauvais de Madame Henriette, bravo.
Ah non, c'est bien plus drôle que vous. Et donc voilà, 1770-1827, et donc voilà, c'était son anniversaire le 15 décembre. Et aussi à Paul Simonon, alors c'est Paul Simonon.
Oh, Paul Simonon, le bassiste de The Clash.
Absolument, qui aura donc 70 ans. Don Johnson,
c'est pas vrai,
aura 76 ans.
Comme le temps passe.
Qui ça, Don Johnson ? Enfin, M. Kogan.
Ah, je suis un grand fan de Don Johnson. Et Ito Momoka, qui est
un grec.
Non, qui est une artiste japonaise et donc qui aura 28 ans. Et donc, parmi les gens qui ont, eux, par contre, malheureusement décidé de partir vers l'Orient éternel ou les îles de l'Ouest, ça dépend de quelle est votre religion. Voilà. Eh bien, Kari Hiroyuki Tagawa, alors vous connaissez cet acteur japonais, vous l'avez vu dans énormément de choses, des séries, des films, même quand vous pensez ne pas l'avoir vu, vous l'avez vu, puisqu'il a joué dans tout, dans Soleil Levant, dans Pearl Harbor, dans Les 47 Ronins, dans Babylon 5, dans tout. Le mec a joué dans tout, c'est absolument dingue, c'était un visage extrêmement connu, de la télévision et du grand écran, et il avait 75 ans. Roger Lumont, eh bien, le nom est nettement moins exotique, et pour cause, c'est un acteur français, il avait 91 ans, et lui, c'est pareil, vous l'avez vu dans tout, et vous l'avez entendu dans tout, puisqu'il c'était un acteur de doublage qui a doublé énormément de films, mais vous l'avez aussi vu dans les films de Moki, de Boissé, de Litvak, de Uri, parce qu'il a tourné beaucoup avec De Funès, hein, voilà. Les films de Verneuil, et il a même tourné avec De Ré et Woody Allen. Donc le type était incroyable. Voilà. Dans le monde de la musique, Tetsuo Yomoki est un personnage assez particulier, parce que c'était un guitariste japonais de rock, qui a priori n'est pas non plus totalement courant, en tout cas dans notre perception. Et puis c'était un guitariste qui était connu pour avoir joué dans des groupes anglais comme Faces dans les années 70. Voilà. Raphaël Itier était un guitariste portoricain plutôt de salsa. Gordon L. Goodwin était un musicien de jazz très connu aux États-Unis. Et Roberto Inierta, et là c'était aussi quelqu'un de très connu dans son pays, une vraie star du rock espagnol. Donc, il n'était pas très âgé. Hein. Et donc, entre autres, d'un groupe de rock qui s'appelle Extremoduro, en référence à la région espagnole Extremadur. Et donc, le garçon était quand même à la tête de ce groupe-là, qui a fait 11 albums studio. Donc, c'est un gros groupe de rock espagnol, mais connu en France. Dans les autres formes d'art, eh bien, Martin Parr, un immense photographe anglais, photographe engagé. Et alors moi, ça me perturbe beaucoup parce qu'il est passé il y a très peu de temps sur Arte. Donc voilà, j'avais été très intéressé par ce qu'il disait. Et le gars est mort. Voilà, là. Bon. Tito Topin, ce nom vous dit quelque chose. C'était un romancier et un scénariste français. Et entre autres, c'est le créateur du personnage de Navarro. Mais je ne crois pas que ce soit la chose la plus intéressante qu'il ait faite. Et puis, Sophie Kinsella. Alors, le nom me disait quelque chose. Mmh. En fait, c'est elle qui avait créé la série Accro au Shopping.
Voilà, c'est une autrice de best-seller, hein, et elle est morte à 55 ans.
Absolument. Voilà, eh bien, écoutez, peut-être, Anne, avons-nous une minute de
oui,
de
des dates brièvement, Monsieur Kogan, on vous écoute.
Très rapidement. Alors, évidemment, je voulais... commencer par Limoges. Alors, l'incroyable histoire banale de Madame F, c'est expression 7. Donc voilà, donc c'est à Jean Gagnant et c'est à 20h le mardi 16. Une conférence de fait, vous allez me dire, je ne pense qu'à ça, les gothiques. Mais alors, ce coup-ci, c'est les gothiques du 12e au 21e siècle.
C'est les gothiques, canal historique.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est Espace Simone Veil, mardi 17 décembre à 19h. Le 17 décembre, il y aura aussi, évidemment, un concert plutôt cool. Je ne vois pas comment dire ça autrement. Ce sera au Bacchus et ce sera à 20h. Et c'est mes amis Étienne et Lars, évidemment, en duo. Elvis Christmas Album and Gospel Tribute, c'est à l'International le 18 décembre à midi. Oui, c'est une drôle d'heure, mais tout est possible. The Why Not Vibes, ce sera au Limogé à 19h30 le 18 décembre. Emerose, ils seront au Troquet Culturel, donc rue Louis Lagrange à 20h. Les 4 saisons de Vivaldi, vous savez, c'est le concept Candlelight là. Je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. C'était au Rock le 19 décembre à 19h. Cambridge Project. Voilà, on est dans de la musique Gnawa World, tout ça là. Plutôt cool. Ce sera au Limoges 19 décembre à 19h30. Le 19 décembre à 20h, vous avez aussi Rita Braga. Là, on est sur de la musique latino-portugaise, on va dire plutôt. Et c'est à l'International à 20h. Mais le week-end, c'est aussi, je pourrais citer plein d'autres choses, mais je vais insister sur, bon, alors il y a Afro Kitchen au Limoges le 20 décembre, au soir, mais ce week-end-là, 19 et 20, c'est évidemment le week-end, le gros week-end du festival de Noël. Donc, du gros son, du gros son, avec Clone en tête d'affiche le vendredi 19, et avec The Great Old Old Ones et Gorod le samedi. Alors voilà, vous connaissez le concept pour ceux qui connaissent l'émission et qui connaissent la région. Voilà, c'est à John Lennon donc le 19 et le 20 décembre, donc ça commence autour de 19h30 les deux soirs. Voilà, voilà. Écoutez.
Que de musique pour finir l'année, dites donc, monsieur Kogan.
Oui, c'est plutôt courageux d'organiser des concerts juste avant Noël. Bon, hormis effectivement le festival de Noël qui est devenu une tradition, en fait.
Oui, c'est ça.
Il va bientôt être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, alors on peut parler d'autre chose que de musique, hein, puisqu'il y a le Cabaret Panique par les Singuliers Associés le 16 décembre à 20h. Et on est à l'espace Nauriac, à la Visitation, à l'audition des classes du Conservatoire de Limoges. Donc là, ce sera plutôt sympa, bon enfant, à 18h45, trois soirs de suite, hein, du 16 au 18 décembre. Une expo à voir à partir du 16 décembre, Fleur Moulin. Voilà, j'en profite pour dire qu'il y a aussi une expo, commencée donc... à partir du 12 décembre au Musée National Adrien Duboucher sur les énergies de la Terre. Voilà, une très belle expo. Je n'en dirai pas plus, évidemment. D'autres musiques, pour le coup, plus classiques, avec du Henry Purcell hein, ou du John Blow. On a donc, ce sont les grandes odes. C'est un concert... qu'on a au Grand Théâtre donc de Limoges. Et puis, ben, dans les jours qui suivront, mais on en reparlera de ça. On en reparlera.
On aura l'occasion.
Très rapidement, aussi ailleurs qu'en Haute-Vienne, vous avez un spectacle le 18 décembre. C'est à la Microfolie de la Souterraine. Ça s'appelle Fantôme. C'est du clown, mais ça a l'air assez intéressant. Bon, les jeunes publics quand même. Hein. Tout public, mais jeune public sans doute. Le mardi 16 décembre à la Guéretoise, la Guéretoise de spectacle, donc c'est à l'espace Fayol. Vous connaissez mieux que moi cet endroit. C'est la compagnie de l'âme à la vague et le théâtre Elios qui donc présente une pièce qui s'appelle Renaissance. Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ?
Ben rien, c'est bien si vous avez fini, Monsieur Kogan.
C'est pas...
on peut s'arrêter par un petit bal folk.
Allez, un petit bal folk.
Le 18 décembre à 19h. Voilà, par Folk Ball. Et
c'est
le
où,
groupe,
pardon, on n'a pas entendu.
Comment ?
On n'a pas entendu où c'était, le bal folk ?
À Coussac-Bonneval.
Allez, ben on se quitte sur le bal des folles. Non, les Folk Ball. Et on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année.
Tout à fait. Passez une bonne semaine et tenez-vous loin des virus.